Oui, je pense qu'on vient de fêter les 20 ans qu'on se connaît quand même. Hein. Donc c'est un privilège de pouvoir bâtir des liens tout au long de ces années, les uns avec les autres. Jésus règne, on l'a chanté, quel privilège. Son royaume est là. Aide-nous, Seigneur, à rentrer toujours davantage, à lâcher prise, céder. C'était un des chants qui nous disait de pouvoir nous livrer et d'avoir les yeux ouverts sur la façon dont il agit autour de nous, en nous. Qu'il est bon de pouvoir être ensemble, rassemblés. Jésus règne ici, à Yverdon, Jésus règne au Tchad, au Togo, son royaume se manifeste, son peuple se réunit en ce moment, en même temps que nous. Des salutations de tous ses frères et sœurs, tchadiens, expatriés, qui se réunissent là-bas, fidèlement, sous un arbre, dans une église comme ici, sur une natte, différentes formes, mais le même chemin, de pouvoir chercher la volonté de notre Maître, de notre Seigneur, de notre frère Jésus-Christ, vivant au milieu de nous. Des salutations de l'église de Pontarlier, d'où je suis, où le royaume se manifeste aussi dans les montagnes. Notre église se réunit à l'extérieur actuellement, parce que nous avons un week-end flambeau, et donc c'est pour ça que mon épouse, mes enfants ne peuvent pas être avec moi aujourd'hui, malheureusement, mais ils vous saluent beaucoup aussi, ils sont en communion avec nous en ce moment, dans les montagnes de l'autre côté de la frontière. Jésus règne. Et pourtant, les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pas de respect pour les parents ou la vieillesse. Ils sont impatients et refusent toute contrainte. Pour ce qui est des filles, elles n'ont plus aucune retenue. Elles sont impudiques, elles n'ont aucune distinction dans leur discours, leur comportement et leur habillement. Vous êtes d'accord avec moi ? En tout cas, Pierre l'ermite, 1274. C'est lui qui a cité ces paroles. « 800 ans avant Jésus-Christ, je n'ai aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est insupportable, sans retenue, tout simplement terrible. Quand j'étais jeune, nous avons appris à être discrets, respectueux des anciens, mais la jeunesse actuelle est excessive, irrespectueuse, impatiente et sans retenue. Socrate, notre jeunesse aime le luxe, elle est mal élevée, elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Ils ne se lèvent pas quand un vieillard rentre dans une pièce, ils répondent à leurs parents et ils sont tout simplement mauvais. 500 ans avant Jésus-Christ. Même un gars s'est dit, vous allez mettre ça sur ma tombe. Il y a 8000 ans, 6000 ans avant Jésus-Christ, sur une tombe égyptienne, le gars s'est dit, vous allez mettre ça sur une poterie pour que ça puisse rester, que les gens le sachent, que nous vivons dans un âge de décadence. Les jeunes ne respectent plus leurs parents. Ils sont désagréables et impatients. Ils passent leur temps dans les bars et n'ont aucune tenue. Pas de soucis. Merci. Mais ça revient, oui, oui. On en rit, mais c'est un discours qu'on entend beaucoup autour de nous et peut-être même au milieu de nous. Mais on se dit, mais David, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est vrai. Et même ce qui m'inquiète davantage, c'est que même les jeunes, peut-être eux-mêmes, aujourd'hui, se disent, mais il n'y a plus d'avenir. À quoi ça sert de se battre ? On n'y croit plus. Et pourtant, chacun d'entre nous doit se battre pour sa génération. Ne pas se contenter de lire les exploits de Dieu des générations passées. mais désirer vivre la gloire de Dieu. Ne nous laissons pas prendre par les soucis de la vie quotidienne, les soucis réels, les difficultés éprouvantes que nous traversons dans notre temps. Oui, la situation est difficile. Oui, bien sûr, il y a des perspectives qui sont décourageantes. C'est une réalité, c'est la réalité. Mais Dieu est vivant aujourd'hui. Battons-nous, réveillons-nous. Pourquoi ? Mais parce que la parole transforme, parce que Dieu agit aujourd'hui. Jésus est venu, il s'est incarné, Dieu est venu sur terre et il fait la même chose aujourd'hui. Il est présent, il était présent il y a 10 ans, 50 ans, 100 ans, il est là aujourd'hui. Il va agir dans chaque génération, être présent, se manifester. Est-ce que nous allons participer à cette réalité ? Merci. Psaume 119. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre, elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. La parole de Dieu est comme une semence. Elle fonctionne de génération en génération. Et c'est à chaque génération d'expérimenter, de l'expérimenter, de la vivre. Jésus ne nous a pas simplement transmis une loi, une parole, mais il nous a assuré de sa présence à chaque instant. Il ne nous demande pas de maintenir un acquis, mais de semer sa présence dans chaque génération, de transformer, de vivifier chaque génération. Et parce que nous avons cette assurance que Dieu agit et que Dieu agira, alors nous pouvons nous battre, alors nous pouvons nous investir pour la génération dans laquelle nous vivons. Un de mes personnages préférés des séries télévisées, des films, c'est Don Camillo. Est-ce que vous connaissez, alors pour la jeune génération, ça va être plus compliqué? Mais regardez, c'est un plaisir à pouvoir regarder. Ce ne sera peut-être pas autant d'action que dans les séries actuelles. Un curé qui se bat pour son village, tout son village, sans distinction. Et il parle avec Jésus, il discute avec lui, il se confronte avec lui en disant « Mais ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer. » Mais il aime les gens qui l'entourent, malgré les différences, malgré les oppositions, les différences qu'ils ont. Il aime son village, il aime sa génération et il se bat pour elle. Est-ce que nous aimons Yverdon ? Est-ce que nous voulons nous battre pour notre génération, pour les gens qui nous entourent, pour nos voisins, pour ceux qui sont et qui nous contrarient, qui nous pourrissent la vie même quelquefois ? Mais de dire à Dieu, ton royaume est là, aide-moi qu'on puisse rayonner. J'aimerais être un Don Camillo pour Pontarlier. Même s'il faut jeter des bancs sur les gens autour de moi pour montrer, mais non, Dieu est là. Venez à lui, venez à Jésus. Comment ? Comment s'engager sur cette voie ? Un bel exemple de cet engagement, on l'a évoqué dans la prière que nous avons eue juste avant de commencer ensemble, c'est Gédéon. Et nous lisons son appel en Juges 6, les versets 11 à 14. Puis vint l'ange de l'Éternel. « Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Son fils, Gédéon, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian, une tribu qui était en train d'attaquer le peuple d'Israël. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disent « L'Éternel nous a fait monter hors d'Égypte ? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et il lui dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon reçoit la visite de l'ange de l'Éternel qui s'assit à côté de lui. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros de qui, de quoi ? C'est n'importe quoi, donc je suis là en train de faire mon chant. Et puis tu me racontes toutes ces histoires. Gédéon se plaint. Où sont tous ces exploits que nous lisons dans la parole de Dieu ? Où c'est ? Où est-ce que sont toutes ces histoires qu'on nous a racontées ? On parle de mission aujourd'hui, mais où est-ce que tout cela, lorsque ces histoires d'anciens missionnaires qui sont partis, revenus avec une barbe blanche, c'est où aujourd'hui ? L'Éternel nous abandonne. Et peut-être que, d'une façon inconsciente, ou peut-être, c'est quelque chose que nous ressentons profondément, nous nous disons « l'Éternel n'est plus là ». Et peut-être que lorsque nous disons « ah mais de toute façon, tout va mal, après nous le déluge », nous disons, l'Éternel n'est plus là. Et dans ce passage, la transition est impressionnante parce que nous avons là un ange qui est à côté, qui s'assoit, qui discute avec Gédéon. Et là, tout d'un coup, un autre personnage apparaît. L'Éternel se tourne vers lui. Beaucoup de passages dans l'Ancien Testament de Dieu qui tourne son regard, dans le Nouveau Testament de Jésus qui regarde le jeune homme riche, Pierre, qui se tourne, qui regarde. Maintenant, Dieu dit, « Je suis ton Dieu. Je suis le Dieu qui te regarde. » Attention, ce que je vais dire est important. L'Éternel se tourne vers nous aujourd'hui. Il tourne le regard vers nous individuellement, vers nous en tant que peuple, en tant que génération. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Pour beaucoup de personnes, Dieu est le Dieu des autres. Le Dieu d'avant, de nos parents, du pasteur peut-être. C'est le Dieu de... Mais pour Gédéon, cela change. Dieu devient son Dieu. Les promesses deviennent ses promesses. Aujourd'hui, l'Éternel se tourne vers nous. L'Éternel nous dit « Je suis ton Dieu, présent, vivant, aujourd'hui. » au-delà de tes sentiments, au-delà de tout ce que tu peux faire, au-delà de tout ce que tu connais. Je suis ton Dieu. Je désire être ton Dieu. Quelle est notre réponse ? Est-ce que nous allons faire comme le jeune homme riche en disant « Oh là, c'est trop, ça me dépasse, je préfère passer mon chemin. » Où est-ce que je me saisis de cette réalité ? Parce que l'Éternel me rejoint, parce que l'Éternel en Jésus-Christ est présent au milieu de nous et qu'il nous envoie. Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Va dans ta génération, dans ta ville, dans ton travail. Je t'envoie, je suis avec toi, je suis ton Dieu. N'aie pas peur. Ah, bien sûr, ça ne sera pas facile. Bien sûr, la vie est remplie de défis. Mais livre-toi entre mes mains d'amour, de père. Et alors, malgré toutes les épreuves et les oppositions qui seront là, bien sûr, mais tu auras la force dont tu auras besoin en moi. Nous ne devons pas être les porte-parole des générations passées. J'aime m'inscrire dans l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Je suis issu des églises ménonites, à Pontarlier, c'est dans ce cadre-là que nous sommes, d'un cadre d'église que nous sommes engagés. Et les églises ménonites sont une ancienne famille d'églises. Mon nom de famille, Sommer, est une famille ménonite qui était, ils sont baladés tout le long de la frontière, dans le haut du Jura, à la Chaux-de-Fonds, d'un héritage familial de foi qui sont tellement précieux et qui sont un point de repère important pour ma vie aujourd'hui. Bien sûr, l'histoire de ceux qui nous ont précédés est précieuse. Mais ce n'est pas pour eux que nous nous battons aujourd'hui. Si nous sommes engagés en mission aujourd'hui, ce n'est pas pour les générations passées ou parce que ceux qui nous ont précédés ont pu s'engager. Les générations sont, ces générations sont déjà passées. Elles se sont battues pour leur génération. Nous devons aujourd'hui être les porte-parole de notre génération auprès de Dieu. Comment est-ce que nous pouvons le vivre ? Comment est-ce que nous pouvons nous saisir de cela ? Ici, maintenant. Je viens pour présenter le travail de la mission, ici. Mais pour moi, c'est égal, le travail de la mission. Si vous, aujourd'hui, vous engagez pour votre ville, pour votre génération, ici, à Yverdon, si chacun d'entre vous a ce cœur, alors je n'ai aucune inquiétude pour la mission. Parce qu'alors, vous serez témoin là où Dieu vous enverra, ici à Yverdon et au loin, quel que soit le chemin que vous allez parcourir, ça va rayonner, ça va porter du fruit par la grâce de Dieu. Pas besoin de partir. Mais parce que vous vous battez pour votre génération, parce que nous nous battons pour notre génération, alors certains d'entre vous partiront. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille dans le monde. Montre-moi, Seigneur, comment je peux me battre pour ma génération. Et ce qui est extrêmement précieux, c'est que nous ne sommes pas seuls. Essentiellement, premièrement, bien sûr, Jésus-Christ est là, vivant. Ce n'est pas un saut dans le vide, mais nous savons que nous avons notre Maître et notre Roi qui règne. Son royaume est là. Il combat déjà avant nous. Lorsque nous partons au Tchad, lorsque nous partons au Togo, lorsque nous restons à Yverdon, pour aller dans notre travail, dans nos activités, dans notre propre maison, Dieu est là, Jésus-Christ est là, il nous précède. Il veut manifester sa présence et son amour dans cette génération. N'ayons pas peur. Confions-nous toujours davantage en lui. Il instaure son royaume. Et nous sommes une famille, un corps, les uns avec les autres. Ce n'est pas un corps figé que Dieu aurait instauré à un certain moment et puis ils font tous un peu essayer d'entrer dans ce corps-là qui a été créé à un certain moment. Mais Dieu fait de nous en permanence un corps. Et pour nous, le but n'est pas de dire « Ah mince, est-ce que je suis une main ? Est-ce que je suis... » C'est de se dire « Ah, mais quel est notre corps ? Comment nous, Église de l'Escale, ici à Yverdon, quelle forme de corps il fait de nous ?» Et c'est tellement beau lorsqu'on prend un peu de recul et qu'on voit ce corps merveilleux que Dieu est en train de construire ici, dans chaque communauté. Pour moi, comme directeur de mission, c'est un privilège à chaque fois de retrouver les équipes qu'il y a au Tchad, au Togo, et de faire ce travail, de faire cette prière, « Dieu, montre-moi comment tu fais de nous un corps. » Et c'est merveilleux de voir ce qu'il révèle, et de voir comment chacun prend sa place, et comment on peut essayer de s'accompagner les uns les autres pour être pleinement à manifester ce corps que Dieu fait de nous. Nous ne devons pas dépendre des héritages laissés par les anciens. Nous devons dépendre du message de Dieu pour nous aujourd'hui. Il faut saisir ce message, la façon dont il va s'incarner dans notre réalité. Peut-être pour nous, plus anciens, de pouvoir accompagner les générations qui viennent. Comment est-ce que dans leur temps, dans leur génération, Dieu va se manifester ? C'est notre engagement comme mission, non pas d'aller simplement apporter une nouvelle, mais de pouvoir aider les frères et sœurs dans ces pays, de voir comment Dieu agit au milieu d'eux. De quelle façon il veut agir ? Pas de la même façon qu'à Yverdon, à Pontarlier ou ailleurs, mais comment est-ce qu'il veut agir à Abéché, à N'Djamena ? Comment est-ce qu'il va agir dans la vie d'enfants qui sont dans la rue à N'Djamena ? Ah, ça sera différent de la façon dont il agit ici. Mais c'est le même cœur, c'est le même Dieu, c'est le même roi. Ce que nous essayons de vivre avec la mission, de pouvoir voir comment le royaume de Dieu se manifeste ici, et au loin, nous avons eu le privilège avec ma famille d'être engagés en même temps dans une implantation d'église et en même temps dans la mission. Et c'est tellement précieux de voir la façon dont Dieu se manifeste dans ces différents contextes. Le même Dieu, mais de plein de façons différentes, avec des défis différents selon les lieux, les contextes dans lesquels nous sommes. Parce que Dieu s'incarne au Tchad. Il vit avec ses enfants dans la rue. Parce que Dieu s'incarne à Pontarlier. Il vit avec nous, dans notre réalité. Pour notre mission, nous essayons de le vivre, de témoigner de cela et de vivre de cette soif de pouvoir manifester la présence de Dieu dans notre génération, dans cette région du Sahel en particulier. Le nord du Togo, Mango, N'Djamena, la capitale du Tchad, Abéché, la frontière du Soudan, on entend parler de cette région en ce moment, alors depuis de nombreuses années avec la situation du Darfour, mais aujourd'hui avec le conflit qu'il y a au Soudan, avec tous ces peuples qui viennent du Soudan et qui se migrent, se réfugient côté tchadien. Le travail historique de notre mission depuis les années 60, on est présent là-bas. Un défi dans lequel nous sommes engagés déjà depuis de nombreuses années en mission. On parlait avec certains d'entre vous de Madi et Freddy Fermo, qui ont commencé le travail à Abéché dans les années 60, qui se sont battus pour leur génération, mais avec une flamme et un engagement qui est encore un témoignage pour nous aujourd'hui. Et nous sommes héritiers de cet engagement-là, pour aujourd'hui. Nous le vivons aussi, en particulier au travers d'un travail parmi les enfants de la rue, que Raphaël et Claudia ont déjà eu l'occasion de vous présenter, Reflet d'espérance. Certains d'entre vous ont eu l'occasion de le voir de leurs propres yeux en voyageant au Tchad. un ministère pour pouvoir, là aussi, se battre, là aussi, s'engager, s'attacher. Je me faisais la réflexion, on a discuté de cela avec Raphaël aussi récemment. Ça signifie quoi aimer ? C'est quoi aimer Dieu ? C'est quoi aimer ses enfants ? Aimer, c'est trois choses, c'est s'attacher. S'attacher pour que tous nos sentiments puissent être orientés vers Dieu et vers notre prochain. C'est écouter. Écouter pour que notre connaissance puisse s'approfondir de la personne qui nous entoure, des personnes qui nous entourent, comme de Dieu. Et enfin, c'est servir. Afin que tous nos actes puissent être orientés vers ce prochain, notre Dieu. Ce que nous essayons de vivre à Reflet d'Espérance, ce n'est pas de mettre en place des projets. Les projets sont des supports, des aides pour nous permettre d'aimer ces enfants de la rue. Parce que Dieu nous a mis à cœur de nous battre pour eux, nous attacher à eux. Et je vous prie de croire que c'est un défi. On a une jeune fille qui est la jeune femme, pardon, qui est actuellement française, qui est actuellement engagée sur les enfants de la rue, qui s'appelle Manon, et qui s'attache à ses enfants. Et chacun d'entre nous, on pourrait témoigner de nos expériences, de ce que nous vivons en mission. Nous nous attachons aux personnes. Et s'attacher à des enfants de la rue, c'est rude, hein ? C'est rude parce que la réalité de la vie de ces enfants est douloureuse. Mais il ne faut jamais perdre de vue que nous sommes là pour nous attacher. On n'est pas là à distance pour essayer de mettre en place des projets, mais on aime et on s'attache aux personnes. On les écoute pour les connaître. Ce n'est pas nous qui venons pour apporter notre connaissance et de pouvoir enfin leur permettre de comprendre ce qui est bon, mais nous devons d'abord apprendre à les connaître, les écouter. Un des fondements que Raphaël nous rappelle régulièrement. Et enfin, servir. Non pas agir, faire, mais servir. Des exemples d'engagement actuel que nous avons avec certains de ces enfants. Au total, dans toutes les activités, c'est à peu près 100 enfants qui sont accompagnés aujourd'hui. Mais quelques exemples de ces situations de vie auxquelles nous sommes confrontés et d'enfants que nous accompagnons. C'est la lettre de nouvelles que Manon nous a envoyée récemment. Et je voulais terminer sur ça, vous présenter non pas les projets, mais les personnes. Salem, 21 ans. Si vous voulez recevoir le détail, je pourrais vous envoyer la lettre de nouvelles, venez me voir après, puis je vous transmettrai sa lettre. Quartier Moussal, un des quartiers de N'Djamena, à la rue depuis ses 8-9 ans. Il a été à l'école jusqu'au CE2. Un jeune extrêmement intelligent, sait bien lire et écrire. Ses parents sont divorcés, il est resté avec son père, mais sa belle-mère le maltraitait à chaque fois que son père partait pour le travail. Quant à sa vraie mère, elle ne veut pas de lui. Salem est un bon chanteur, bavard comme personne, avec des réflexions à mourir de rire. Mais il n'aime pas parler de sa vie et préfère parler de celle des autres. Il écoute, retient très bien les histoires bibliques. Il peut expliquer toute la vie de Jésus. Dans la rue, il est connu pour être un bon voleur. Il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien quand il boit ou prend les drogues. Et il se retrouve toujours dans des embrouilles, ce qui lui a valu de grosses blessures et quelques visites aux urgences. Début février, il m'a emprunté son téléphone pour appeler son papa. Deux jours après, il a décidé de rentrer sans prévenir personne. Il est maintenant à Sarre, une ville au sud du pays, sud-est. Nous prions pour qu'il puisse s'y sentir bien et reprendre une vie normale. Et pour que toutes les histoires qu'il a entendues sur Jésus restent gravées dans sa tête et dans son cœur. Adoum, 14 ans. Quartier de Kabbalaï, à la rue depuis de nombreuses années. Son père est décédé. Sa maman et sa grand-mère vivent dans le quartier même où il erre. Il n'en donne pas vraiment les raisons, il dit simplement qu'il est sorti comme ça. Mais on devine qu'il y a quelque chose derrière. Sa maman veut qu'il revienne à la maison. Elle a vraiment du mal à le voir dans cet état-là, mais il ne veut pas. « Ses parents l'avaient inscrit à l'école coranique, à l'école, mais à chaque fois il a abandonné, il n'aime pas ça. Adoum connaît très bien ce que Jésus a fait pour lui, mais il n'en veut pas, car il veut continuer la colle. C'est la drogue, la substance que les enfants mettent dans des bouteilles pour la sniffer. Il veut continuer la colle et il sait que Dieu est contre. Il aime la liberté de la rue. Jouer au 6, c'est le jeu des petits chevaux. Faire des blagues, chanter, danser, prendre de la colle. Il explique clairement que c'est le diable qui lui a dit de prendre cette drogue. Prions pour lui, pour tous les autres enfants qui sont vraiment accros à cette drogue et qui sont enchaînés à la rue. Fatimé, la situation des femmes est vraiment profondément dramatique. Une vingtaine d'années, quartier du Grand Marché, c'est là où elles sont rassemblées souvent, à la rue, là aussi depuis de nombreuses années. Une fille d'environ 3 ans, qu'elle voit de temps en temps, qui vit chez sa maman à N'Djamena, où elle-même ne peut pas retourner vivre, ne veut pas retourner vivre. Elle n'est jamais allée à l'école, ne sait ni lire ni écrire. Fatimé est une des filles les plus régulières à venir aux activités. Elle aime entendre les histoires de la Bible. Elle est très attentive, serviable et à l'écoute. Elle consomme, elle aussi, toutes sortes de drogues. Elle a accouché ce mois-ci d'un petit garçon qu'elle a laissé chez sa sœur pour retourner à la rue. Le papa de cet enfant est un jeune qui vit dans la rue, avec qui nous travaillons. Elle nous avait demandé de prier pour son accouchement, car lors du dernier, survenu en pleine rue, elle avait perdu l'enfant. Nous avons pu prier ensemble, et gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Le papa français, c'est assez dur pour moi d'échanger avec elle, car je ne comprends pas son arabe, et elle ne comprend pas le mien. C'est très frustrant. Priez pour le travail parmi les filles, c'est un travail tellement exigeant, tellement éprouvant. Des filles de 15 ans qui ont déjà leur premier enfant, deuxième enfant, qui vivent dans la rue. Un dernier exemple, Mamadzen. Mamadzen a 19 ans, Mamad vit désormais sous un toit. Il est réinséré depuis octobre, après bien des années à la rue. Ses parents sont séparés, il vivait avec sa maman, mais elle et son nouveau conjoint boivent beaucoup d'alcool et cela les rend violents verbalement, physiquement. Voilà pourquoi Mamad s'est retrouvée très jeune dans la rue. Mamad a beaucoup consommé de colle car ça lui met des étoiles dans les yeux, comme il dit. Puis il a commencé à demander à l'équipe de prier que Dieu l'aide à arrêter toutes les drogues auxquelles il était accro. Après un suivi rapproché, il a été accueilli dans la famille de Kramral qui travaille avec nous sur le projet des enfants de la rue. Là-bas, il a été bien encadré, il a retrouvé l'amour d'une famille, il a entendu et vu vivre la parole de Dieu. Il a été inscrit à l'école, il a beaucoup progressé, arrêté ses addictions, est devenu un jeune homme costaud, sage et responsable. Après 1 an, dans la famille de Kramral, il a regagné sa famille et vit maintenant chez son grand-oncle depuis le mois d'octobre. Ça se passe bien. Il est cinquième de sa classe, sur 120. Il aime lire, jouer avec ses nouveaux frères et sœurs. Il a accepté Jésus dans son cœur et aime aller à l'église. Il ne voudrait pour rien au monde retourner dans la rue. En le voyant, c'est juste impossible de deviner qu'il a vécu dans la rue. Nous continuons de veiller sur lui et de prier. Un engagement dans la foi pour ces jeunes est pour nous un témoignage tellement grand, parce que ce n'est pas juste, pardonnez-moi, d'accepter Jésus dans son cœur. C'est changer radicalement, c'est ce que nous devons tous faire, c'est ce que nous faisons tous. Mais des fois, peut-être, nous le perdons de vue. Ça change tout. Et lorsqu'ils doivent arrêter la colle, lorsqu'ils doivent renoncer à leurs armes, alors, oui, on voit que c'est un vrai combat, un vrai choix, un vrai risque. Prions pour eux. Voilà, c'est quelques exemples pour vous encourager à prier et vous engager. Ici, à Yverdon, au loin, pour ses enfants, pour toutes les situations que le Seigneur vous mettra à cœur. Parce qu'il est vivant, parce qu'il agit, parce que ce n'est pas en vain que nous pouvons remettre tout cela entre ses mains. Et je vous invite déjà maintenant à le remettre entre les mains de Dieu par la prière. Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es le roi. Tu es tout puissant. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Mais nous savons aussi que tu es un Dieu qui est tout proche, présent, en nous, au milieu de nous. Un Dieu qui prend soin, qui aime chacun de nous personnellement. Seigneur, nous nous livrons à toi. Il n'y a pas d'autre lieu dans lequel nous voulons être que dans ta présence. Que ta volonté soit faite dans nos vies, que sa volonté soit faite autour de nous. Nous avons à cœur ce matin de te prier particulièrement pour ces enfants. Ceux que nous avons cités, Mamadzen, Fatimé, Adoum, que tu les bénisses chacun. Garde-les. Manifeste ta présence, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent se livrer à toi. Délivre-les de toute dépendance, de cet attachement à la rue. Fortifie tous ceux qui s'engagent dans ces projets pour les accompagner, les aimer de ton amour. Merci parce que tu es vivant aujourd'hui. Merci parce que ce n'est pas en vain que nous prions, que nous agissons, parce que tu es là, parce que tu es vivant, parce que tu agis de génération en génération. Nous le croyons, Seigneur, et nous crions à toi pour notre génération aujourd'hui. Manifeste-toi, manifeste ton amour, ta présence et ton règne en Jésus-Christ. Amen.